Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Tati Mampuku. Okapi.
Nous voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service. Quelle est l'importance de la relance de la culture pérenne en République démocratique du Congo? C'est de ces sujets que nous sommes en train d'aborder dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec ingénieur Blaise Molo. Il est coordonnateur des projets de l'ONGI Bider Life RDC. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour Monsieur Tati.
Nous joignons au téléphone notre deuxième invité. Il s'agit de Monsieur Bernard Kilungu. Il est administrateur exécutif de cette ONG. Vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour Monsieur Tati.
Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous nous ferons le plaisir de vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos questions, commentaires et témoignages au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Bienvenue Kinkala qui nous a écrit depuis la ville de Kikwit. Il nous révèle ceci: la relance des spéculations pérennes est très importante car non seulement elle contribue à diversifier les ressources des revenus des agriculteurs, mais également elle constitue au fait une épargne à long terme pour les producteurs agricoles parce que les cultures pérennes ne demandent pas trop d'entretien après leurs entrées en production. Nous attendons également vos commentaires, témoignages et suggestions au courriel dénommé service@radiocapi.net. Tati Mapoku, c'est moi qui anime et coordonne ces numéros. Jean-Marc Matouaki s'occupe de la supervision. Grâce à Loutoulette à la réalisation. Et Debs Vita s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quelle est l'importance de la relance de la des cultures pérennes en RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Les cultures pérennes sont constituées de nombreuses spéculations agricoles qui ont vocation à durer dans les temps. Les spécialistes en économie agricole citent notamment les caféiers, les cacaoyers, les théiers, les palmiers à huile, les veillas, les tabacs, les soja, les cotonniers ou autres. Toutes les cultures citées ci-dessous trouvent des conditions favorables à leur épanouissement ainsi qu'à leur prolifération sur l'ensemble du territoire national. D'ailleurs, on dit que la RDC possède 180 000 hectares de terres arables. Alors, pour relancer ce secteur pouvant booster l'économie nationale, l'ONGI Bitter Life est en pleine campagne de la relance de ce secteur dans plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Et quelle est l'importance de la relance de la culture pérenne en République démocratique du Congo? Et quels sont les termes de référence avec les fermiers congolais dans le cadre de ces programmes de la redynamisation des cultures pérennes en RDC? C'est de ces sujets que nous sommes en train d'aborder dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Je commence par vous, Monsieur Bernard Kilungu. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Bitter Life. Dites-nous, quel est le but de cette initiative prise pour accompagner les fermiers congolais dans la culture pérenne ici en RDC.
Une fois de plus, merci beaucoup M. Tati Mapoukou et bonjour aux auditeurs. La radio de la radio Capi. En fait, l'objectif de Bedour Life, c'est de promouvoir d'abord le bon développement et rendre ce secteur qui tant entendu ou négligé dans notre pays. À l'époque, c'était vraiment un grand secteur génératif. Vous remarquerez que même quand le colon, le Belge à l'époque, il y a 50, 70 ans passés, avant même l'indépendance, bien évidemment, ils avaient commencé à implanter ces cultures-là. C'était le premier objectif en dehors de minerais. C'était dans le Congo central, vous aviez les veya, les cacao, les caféiers robusta, et à l'Équateur, vous aviez le cacao, vous aviez le palmier et les caoutchoucs également. C'était justement pour générer plus de revenus. Et c'est avec ces revenus-là où ils se sont développés chez eux. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, si vous regardez même sur le réseau social ou sur l'Internet, vous faites des recherches, vous remarquerez que la République démocratique du Congo a perdu sa place. Il y a 50 ans ou 30, 40 ans ou 50 ans passés, la RDC était parmi les 5 producteurs, parmi les 5 premiers producteurs ou exportateurs des caféiers, des cafés, des cacao.
Même le coton.
Exactement, même les cotons. Aujourd'hui, la RDC a perdu toutes ses places. Et dans le plan, ce n'est pas dire que ces cultures ne peuvent pas être plantées ou installées dans un coin. Non, c'était dit aux routes, puisqu'il n'y avait pas de routes à l'époque. Et c'est comme ça que le Belge, dans leur plan stratégique, il s'est servi du fleuve Congo. Par exemple, à l'Équateur, on pouvait utiliser le fleuve Congo, amener la marchandise jusqu'à Kinshasa, et puis acheminer la marchandise de Kinshasa jusqu'à Matadi au travers, par la voie ferrée. Et c'était pareil au Congo, au Congo central. On pouvait facilement produire, vous avez le port de Matadi, vous avez le port de Goma, et l'évacuation était facile. Et vu qu'il n'y avait pas de route, c'est comme ça que vous remarquerez le province comme le Grand Kasaï. C'est absurde. Aujourd'hui, si vous allez avec ce genre de projet, ils vont vous trouver, ils vont vous dire, bon, ce sont des projets qui ne tiennent pas ici, qui ne vont pas aller ici. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas de route d'acheminement où on pouvait prendre le produit, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces routes que nous avons aujourd'hui. Pour quitter, par exemple, Kasaï, faire la route jusqu'à Kinshasa, c'était un grand problème. Ça partir des années 2000-2005, où il y a eu vraiment cette fluidité de ces tronçons, où l'applicabilité, l'utilisation de toutes ces routes-là. Donc, vraiment, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, en dehors de minerais, nous avons des minerais verts, des minerais chocolat, comment on peut dire. On a beaucoup de produits, on a beaucoup de minerais, rien qu'avec les cafés, l'arabica. Allez-y, regardez sur l'Internet, ça dépend d'un pays ou d'un autre pays. La tonne revient dans d'autres pays jusqu'à 10 000 dollars, la tonne. Les cacao, la variété criollo, et la tonne revient dans d'autres pays jusqu'à 22 000, 25 000, à l'heure où nous parlons. Et à Kisangani, par exemple, actuellement, la tonne se vend à 5,5 dollars. Au Congo central, actuellement, au moment où nous parlons avec vous, les kilos plutôt, c'est 5,5, et au Congo central, ça se varie entre 5 jusqu'à 8 dollars. Ça dépend. Vous remarquerez même qu'au Congo central, actuellement, ce sont nos amis de l'Est qui vont acheter ces cacao pour aller et revendre. Et si, au niveau local, les kilos se vendent à 8 dollars, au niveau international, sans tenir compte de l'exportation, tous ces frais qui y vont avec en termes d'exportation, les kilos se vont à combien? C'est comme ça que nous lançons cet appel, d'une manière de promouvoir, de faire la promotion, de vulgariser ce secteur. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple terre à terre, M. Tati. Vous voyez une personne qui a 5 millions de dollars, il investit dans la construction d'un immeuble.
Dans un immeuble,
oui. Oui, c'est bien. Exactement, on veut le développement. Mais quand est-ce qu'il va récupérer
le capital investi.
5 millions de dollars?
Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en une année.
Mais prenez ces 5 millions de dollars, investissez par exemple sur 300 ou 200 100 hectares, 800 hectares de la culture pérenne, mais au bout de 2 ans et demi, M. Tati, mais vous n'aurez même pas envié certaines fonctions dans ces pays. Donc c'est pour vous dire que, et au travers de ces concessions, et ce sont des concessions qui vont rester à long terme, la vieillité de ces concessions, ça peut aller entre 25 jusqu'à 30 ans. Vous voyez, à l'Est, vous connaissez même de grands politiciens congolais, entre guillemets, qui ont fait des noms, qui ont fait de la fortune dans les cacao, dans les cafés, dans les caféiers.
Tout à fait.
Donc aujourd'hui, notre objectif, premièrement, c'est de relancer. Mmh. Et pourquoi ne pas dire à ce que la RDC, d'ici 3 ans, que la RDC soit comptée parmi le premier exportateur de ces cultures pérennes. Et au travers de ces cultures pérennes, le problème, ce n'est pas de générer, mais le problème, ce sont les emplois directs et indirects.
Et puis, le déploiement des unités de transformation, donc ça va, c'est vraiment un secteur qui peut créer beaucoup d'emplois et beaucoup de services sociétaux. On vous garde en ligne, hein, le temps de vous donner la parole, ingénieur Bernard. Allons d'abord au standard. Il y a un auditeur qui attend il y a plus de 5 minutes, donc on lui donne la parole. Et puis on retourne ici au studio. Monsieur ingénieur Mwamba Selemani, Gérard, vous nous appelez de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, la radio Kapi.
Vous êtes partenaire à l'ONG Biderlife. Dites-nous, vous avez une concession de combien d'hectares?
Ok, merci beaucoup pour la question. Biderlife est venu au Katanga. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de croiser M. Bernard, qui est l'exécutif. Alors, il fait voir, il m'a donné le goût de l'agriculture pérenne du cacao, et spécifiquement le criollo. Alors, notre doute était que cette semence ici chez nous, comme on avait jamais fait ça, ça ne pouvait pas germer. Alors, très intelligent qu'il est, il a donné la semence, les fèves de 50 hectares à madame mon épouse pour qu'on fasse l'échantillon. Et quand on a mis à terre ces échantillons de 50 hectares, la manière dont ça germait, vraiment, ça nous a donné le goût, jusqu'à ce que moi, maintenant, j'ai souscrit à faire 800 hectares de cacaoyer.
Et vous avez déjà commencé à préparer les sols? Est-ce que vous avez déjà reçu les semences? Comment ça sera vos termes de collaboration avec l'ONG Biderlife qui vous appuie?
Oui, Biderlife nous a déjà amené la semence. Et nous, de notre côté, nous avions déjà fait une grande pépinière. Et cette pépinière, vraiment, est très prometteuse.
Et la pépinière, elle est déjà installée et vous comptez repiquer les pieds de ces cacaoyers dans combien de temps?
De toute façon, nous attendons la saison propice parce que comme nous avions installé notre pépinière tout au long de la rivière, nous attendons le moment propice, c'est-à-dire ici chez nous, les pluies commencent au mois de fin novembre. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons répliquer sur la surface de 800 hectares.
Est-ce que pouvez-vous nous faire une idée sur les défis auxquels vous faites face dans vos activités agricoles dans la région du Katanga des Membrés?
Oui, à son temps, on s'est borné plus sur la culture de maïs et manioc. Et tandis que le maïs, il fallait avoir beaucoup d'engrais, et faute de moyens, parfois on ratait même la récolte. Maintenant, quand Biderlife est venu par l'entremise de M. Bernard ici à Lubumbashi, et qu'il a bien expliqué le bien fondé de la culture pérenne, telle que le cacaoyer, le caféier, alors personnellement j'ai compris et j'ai mordu à la maison et puis depuis ce temps-là, tout va bien, la pépinière a bien donné et ça nous donne vraiment l'espoir que D'ici là, au Katanga, les gens goûteront le chocolat.
Produit localement. Excellente initiative et bon courage à vous. Hein. Merci également de votre témoignage qui est assez parlant. Je me tourne vers vous, ingénieur Blaise Molo. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur de l'ONG Biderlife. Quelles sont les spéculations que vous allez remettre aux fermiers et est-ce qu'on peut avoir une idée sur les critères d'éligibilité des fermiers qui aimeraient bien collaborer avec votre ASMEL?
Merci beaucoup pour la question, monsieur Tati. Nous passons vraiment plus sur le cacaoyer à variété criollo et aussi le palmier, tout comme le café arabica et aussi le thé. Pour le fermier qui aimerait vraiment avoir, qui aimerait vraiment être accompagné par Biderlife, les minimums pour le culture pérenne, ça, nous les disons, c'est sur 20 hectares. Et voilà, les conditions, ils sont pas vraiment très compliquées, mais le minimum, il faut quand même avoir 20 hectares pour qu'il y ait un bon rendement. Mmh. Alors, ça c'est le 1. Pourquoi la culture pérenne? La culture pérenne permet aussi de relancer l'économie nationale en long terme. Et non seulement relancer l'économie nationale, cette culture nous permet aussi de sauvegarder le vestige qui fait partie de notre patrimoine. Monsieur Bernard l'a cité, je vais juste effleurer quelques provinces. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand vous êtes dans le nord, le grand nord, je vois l'équateur, la province orientale, il y a des cultures de quoi des cotons qui sont abandonnés, il n'y a plus des caroutchoucs.
Je vis dans la périphérie des Kikwit, des palmeraies à l'état d'abandon.
À l'état d'abandon, vous voyez quand même. Et monsieur Tati, vous personnellement, nous avons eu à faire route avec vous pour voir les concessions que Biderlife est en train d'accompagner sur le plan technique. Mm. Et vous avez vu de part et d'autre, il y a des terres à perte de vue qui ne sont pas exploitées.
Valorisées.
Qui ne sont pas valorisées.
Oui.
Et le culture pérenne.
Ils sont colonisés par les herbes sauvages.
Sauvages. Mm. Et le culture pérenne ne demande pas beaucoup d'entretien comme d'autres spéculations. Et la rentabilité
est
à long terme. Peut-être c'est que nous, Congolais, nous voulons juste quelque chose de 3 mois, 6 mois, mais une année, 2 ans, 3 ans, ça passe vite. Et après, vous allez commencer à récolter, et puis vous allez commencer à revendre, non seulement sur le plan national, mais aussi c'est sur le plan international. Mais nous protégeons aussi les gens avec qui nous accompagnons, avec nos partenaires internationaux, avec des contrats de préachat. Et ça, c'est juste entre parenthèses, parce que certaines personnes ont la crainte, oui, je fais sur 1000 hectares, sur 2000 hectares, et après,
les débouchés d'écoulement de ces produits.
Oui, je vais vendre comment et tout. Mais nous avons déjà eu à prendre toutes les dispositions, et pour ceux qui ont 2000 hectares, nous allons faire avec vous et vous avez un contrat de préachat à 18 mois. Le contrat de préachat entre en vigueur et vous bénéficiez déjà de ces contrats sans pour autant avoir déjà le produit de la récolte.
Ah, ça c'est très avantageux. Si déjà dans 18 mois, donc préachat pour 18 mois, c'est déjà bon. Donc à l'avance, il a déjà les ressources. Ça lui permet également d'entretenir la concession où se développe sa culture. Monsieur Bernard, je me tourne vers vous. Dites-nous, mais il y a quand même d'énormes défis à relever dans les cadres de cette relance de la culture pérenne en RDC. Ça, nous devons le reconnaître.
Bien sûr, de grands défis. Premièrement, c'est au niveau de la politique commerciale. Ça veut dire, vous avez avant qu'on parle de la commercialisation, il faudra qu'il y ait de la production. Mmh. Donc, ça veut dire le premier défi, c'est l'accessibilité, les routes des déserts agricoles. C'est comme ça que nous sommes lancés aussi dans le projet ou d'élever de fonds de projet à caractère communautaire pour enfants justement avec le ministère qu'on va saisir tout d'ici là, le ministère de développement rural, enfants que nous puissions travailler en partenariat avec eux dans l'objectif de réhabiliter certaines routes des déserts agricoles, puisqu'il y a des points du pays où lorsque vous arrivez, ils ont beaucoup de produits, ils ont des stocks, mais par manque de routes, par manque de rivières qui ne sont pas navigables et tout, et ils ne savent pas comment acheminer ces produits ou ces denrées de première nécessité au niveau de la vente. Alors là, c'est le premier défi. Ce sont de premiers défis. Les seconds défis, c'est l'expertise au niveau de ce que nous faisons. Vous remarquerez que même les agronomes que nous engageons, ils ont un sérieux problème sur le terrain au niveau de la connaissance. La partie théorique, vraiment, lorsqu'ils vous expliquent, vous dites, bon, on a affaire, j'ai affaire à un expert, mais quand vous le mettez devant le fait, donc il a une concession, qu'il duplique ce qu'il a eu à vous expliquer d'une manière théorique, il est coincé, il est bloqué. Donc tout ça, c'est comme ça que chez nous, nous avions mis aussi une politique en interne. Lorsque le gens, au moment de prendre le gens auquel nous travaillons avec dans l'exécution de projets, il passe d'abord par des formations des 6 mois, 9 mois, afin qu'ils voient comment on produit, c'est quoi la différence d'une pépinière, c'est quoi la pépinière, c'est quoi le germoir, c'est quoi la préparation des terres, puisqu'il y a plusieurs opérations qui entrent en jeu. Et ces opérations, gérer de petites superficies, ça se comprend, mais gérer de grandes étendues, ce n'est pas moindre. Gérer 150, 200 hectares, 150, c'est 1,5 km, hein, sur 1,5 km.
Ah oui, hein, il faut contrôler les champs, il faut éviter les feux de brousse.
Exactement. Tout ça, ce sont de grands défis. Et s'il faudra compléter le troisième défi, c'est les entraves agricoles, puisque nous avons un problème d'acheminement. Par exemple, les semences de cacao, ce sont des semences qui nous viennent de l'extérieur, d'ailleurs. Et ces semences-là ont que 48 heures de taux de germinatif, de pouvoir germinatif. Si ça peut dépasser ces 3 jours, mais au-delà de 3 jours, même si vous avez combien de tonnes, ça ne pourra plus pousser, ça ne pourra jamais pousser, les semences vont entrer dans une phase de fermentation. Donc voilà un peu le grand défi que nous avons, et nous sommes justement en train de travailler, nous y travaillons déjà pour remédier ces défis, et aussi l'accompagnement de nos bailleurs, de certains projets, de nos amis, de certaines institutions sur place, ça nous rassure aussi, ça nous accompagne. C'est aussi une contribution majeure dans le développement de ce que nous faisons, ou encore le développement de notre beau pays.
Et une sous-question, Monsieur Bernard, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le déploiement de cette collaboration à travers la République?
Jusque-là, justement, ce que nous aimerions, c'est ce que la République puisse nous faciliter au niveau des l'exonération, qui puisse nous faciliter au niveau au niveau de l'exonération. Ça veut dire, il y a des machines, c'est comme maintenant là, je suis au Katanga pour le tracteur qui sont arrivés, je dois aller les chercher en Tanzanie à Dar es Salaam. Alors ce tracteur là, vous devrez les dédouaner. Et quand vous regardez déjà la facture, les informations que j'ai pour un tracteur, je me dis, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine? Pourquoi ne pas acheter les tracteurs sur place au lieu d'aller les chercher ailleurs? Vous voyez, le gouvernement doit vraiment nous accompagner, ou la République doit vraiment nous accompagner, puisque ce que nous faisons, c'est une mission noble que nous avons. Oui. Il y a aussi l'exportation de produits. Ces produits, on ne va pas. C'est vrai que nous prenons à ce que la transformation soit faite au niveau local, mais ce ne sont pas des partenaires. Certains voudront, même certains partenaires, eux-mêmes, ils ont déjà dit, certains nous disent, votre contrat de préachat, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est nous allons nous-mêmes aller vendre nos produits dans X ou Y pays. Alors, ces gens-là, on doit quand même les faciliter à évacuer leurs marchandises en payant moins au niveau de la douane, puisque ce sont des choses périssables. À une certaine température, certaines conditions qui ne sont pas bien prises en charge, ce sont des produits périssables. Alors, et au niveau aussi par l'international, il y a beaucoup d'obligations qui rentrent en jeu. Et ces produits sont justement suivis à la loupe, les investigations sur la conservation, sur l'acheminement, sur la production et des tailles. C'est pas très sévère ces conditions-là. C'est comme ça que le gouvernement doit vraiment accompagner ce genre d'initiatives afin que ces derniers, les partenaires, ces derniers qui sont nos partenaires, lors de l'écoulement de leurs marchandises, ce sont des emplois directs et indirects qui sont créés au pays, et ces partenaires, ils vont devoir payer des différentes taxes, et donc c'est le gouvernement aussi qui va, c'est la République aussi qui gagne en quelque sorte.
Oui, mais en même temps aussi, à ma connaissance, les intrants agricoles bénéficient de l'exonération. Ça, il faudra se renseigner, monsieur le coordonnateur. On vous garde en ligne, on part au standard. Cher Bernard, ingénieur, le temps, on va retourner sur le studio, hein, parce que comme il y a des auteurs qui appellent, donc nous devons leur donner priorité, puis on va retourner ici au studio. Cette fois-ci, on part à l'Omami pour donner la parole à monsieur Chrétien Kabamba. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, vous êtes également partenaire à l'ONG Biderlife. Dites-nous, vous avez un espace de 150 hectares à valoriser dans la culture pérenne, c'est ça?
Justement. C'était au départ 50, après quelques temps après, on est allé à 70, mais dernièrement, j'ai souscrit pour 150 hectares des cultures pérennes, justement, qui concernent la production du cacao dans la province de l'Omami.
Oui, mais la province de l'Omami aussi est très enclavée, les routes ne sont pas en bon état, et pour acheminer les intrants agricoles, ça sera un défi énorme, ça, vous le reconnaissez.
Justement, c'est comme ce que je venais de suivre tout à l'heure lors de votre échange avec l'ingénieur Bernard, qui est le coordinateur de l'ONG de Biderlife. C'est un problème très épineux par rapport à la province de l'Omami, étant donné ce qu'il venait de l'insinuer tout à l'heure. Tout vient de l'extérieur. Les fèves, les cabosses, ça vient, je ne sais pas, du Brésil. Ça doit venir Kishasa, Mbujimayi, aller à l'intérieur de la province de l'Omami. Donc, c'est un problème très épineux auquel il faut faire beaucoup d'attention pour ne pas perdre, parce que la semence, comme je venais vous dire, ça coûte énormément cher et ce n'est pas à la portée de tout le monde si cela devrait dépendre de nous. Je pense qu'on n'aurait pas pu accéder à la production du cacao dans la province de l'Omami. C'est un problème crucial, comme je venais de vous le dire. Il faut que ça transite des fois par Kananga. Kananga, ils prennent des motos avec tous les risques que vous connaissez, de Kananga, Mbujimayi, Mbujimayi, Mweneditu, Lusuku. Et voilà un peu la problématique de transport des produits jusqu'à les faire parvenir sur les sites agricoles.
Cependant, vous êtes motivé à vous lancer dans ce type de culture, bien que ça prend du temps.
Justement, ça prend du temps, la patience paye. C'est comme quelqu'un aujourd'hui avec la culture. Je sais que au village, à moi et peut-être aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle technologie. On parle de semences améliorées. Dans l'ancien temps, la production des manioc prenait 3 à 4 ans. Mais pourquoi ne pas prendre patience pour 2, 3 ans et commencer à produire pour une longue durée.
À récolter pendant 5 ou 10 ans.
Bien que ça prenne du temps, je souscris à cette culture. D'autant plus que c'est une culture qui va me rendre, bon, comme on l'appelle, pérenne, pour une longue durée d'exploitation.
Et vous employez, si ce n'est pas un secret, combien de personnes dans votre ferme?
La ferme, je venais de vous le décrire, j'ai commencé d'abord, c'était avec la culture de maïs, la première saison, on peut passer. J'étais à 30 hectares, mais avec les conditions des produits d'engrais, je n'ai pas pu atteindre mon objectif. D'autant plus que je n'avais pas de tracteur. Dieu merci. Cette fois-ci, je pense, avant la campagne agricole de cette année, je serai déjà en disposition des tracteurs pour me permettre d'avancer sans recourir à l'extérieur.
Oui, ça, c'est...
Il m'a fait beaucoup bloquer et je n'ai pas pu.
Oui, ça c'est vrai, mais oui, vous aurez un tracteur, oui, qui pourra arriver à de Lubumbashi, mais pour l'acheminer à l'Omami, là, c'est encore un parcours de combattant.
Non. Et d'ailleurs, je vous informe, je venais d'échanger avec quelqu'un qui est sur place à Mweneditu à l'Omami. Il me dit qu'il y a déjà des camions qui ont commencé à quitter les Kasaï pour le Katanga. Donc, sous peu, ça va faire la route sans difficulté. Je ne pense pas que ça soit un problème pour acheminer les tracteurs. Et quand bien même si cela pouvait constituer un handicap, il y a aussi la voie ferrée. On pouvait recourir par la voie ferrée. Gwenedi Toulousoukou, c'est une gare de la SNCC où les tracteurs devraient facilement atterrir sur le site.
Parfait, merci beaucoup, c'est encourageant. Mais si vous êtes appelé à faire un plaidoyer au niveau de service public, quel sera votre message?
Le message, c'est d'abord l'infrastructure routière. Je sais qu'il y a des problèmes. Quand vous quittez Mbujima et Mwenedi, tout, on est en train d'aménager la route. Là, ça va bon train. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur le site... J'étais à Mbujimayi le 24, j'ai fait une semaine en parcourant Mweneditu, Lusuku, Luputa, et j'ai vu comment les travaux sont en train de se réaliser avec la coopération chinoise.
Sino-congolaise.
Je pense que j'ai la foi que d'ici là, on pourrait atteindre Lusuku et dépasser, parce que l'objectif, comme vous connaissez la politique économique de notre président, c'est de relier les Kinshasa à Lubumbashi. Donc, à Kasumbalé, en passant par Lubumbashi, bien sûr. Soupe, je pense que la route sera aménagée. Donc, comme difficulté, c'est que je pouvais demander aux chefs, ils sont en train de le faire aux autorités politico-administratives de notre pays, c'est la réhabilitation des routes de dessertes agricoles.
Merci beaucoup, Monsieur Kabamba. Nous rappelons que vous intervenez depuis la Lomami. Excellente journée. Je me tourne vers vous, ingénieur. Dites-nous, les semences viennent d'où et est-ce que les fermiers qui collaborent avec vous vont bénéficier d'un accompagnement à long terme? Parce que la culture pérenne aussi, c'est vrai que c'est pas assez exigeante, mais il faut également un suivi, un encadrement de ces fermiers parce que l'expertise, ce sont pas tous les fermiers qui ont ça.
Merci beaucoup pour la question. Les semences viennent du Brésil. Nous sommes en coopération avec Sagril SA. C'est une entreprise agricole qui nous fournit les semences de cacaoyer à variété Criollo. Et il faudrait bien tenir compte de la variété parce que c'est la variété qui est la plus recherchée dans le monde et aussi qui est aussi la plus rentable aussi en termes de quoi d'exportation. Et en dehors de ça, les fermiers, nous les accompagnons à une certaine hauteur. C'est jusqu'à 70% que nous les accompagnons. Sur le plan technique, ils ont notre accompagnement jusqu'au niveau de la formation des cabos. Ils ont notre accompagnement. Alors, ce sont avec eux, ensemble, nous sommes en train d'acheminer. Parce que je sais qu'il y a quand même des frais qui entrent en jeu. On va pas quand même y évoquer. Mais à ce qui concerne l'accompagnement technique, ils ont l'expertise de Birdlef. Il y a des ingénieurs sur place. Et d'ailleurs, même la pépinière, c'est Birdlef qui s'en charge. Nous faisons la pépinière. Et les gens nous garantissent...
Avec vos techniciens à vous.
Avec nos techniciens, nous garantissons vraiment la réussite du projet par la pépinière. Nous faisons. Et s'il y a des choses que nous devons ajouter, nous donnons des recommandations. À ce qui concerne quoi, les travaux d'aménagement sur terrain, il y a nos techniciens, accompagnés aussi avec les techniciens du partenaire. Et nous donnons des recommandations, nous formulons des recommandations. Et toutes les phases d'aménagement, nous sommes avec eux, du début jusqu'à la fin. Alors, les problèmes que nous avons, je ne vais pas traîner très longtemps, c'est un problème logistique. Surtout aussi au niveau de l'aviation civile. Je demanderai quand même aux autorités de voir cela. Parce qu'avec l'aviation civile, nos compagnies font du n'importe quoi.
Oui, parfois, il y a l'annulation des vols, des reports.
Non seulement des vols aussi, il y a aussi les colis qui se perdent. Et quand vous faites des vous êtes en train de réclamer sur le colis qui se perdent, ça prend du temps. Et ce sont des semences qui coûtent extrêmement cher. On sait pas où vraiment aller se plaindre en cas de perte de colis.
Oui.
Et récemment, nous avons eu à perdre un de nos colis qui s'est dirigé vers le Katanga, vers le Lubumbashi, pour nos partenaires. Et c'est en cours, mais on sait pas vraiment. Alors, bon, si réellement nous avons les colis, mais Monsieur Bernard l'a évoqué, la période du corps de feuille, ça ne doit pas dépasser trois jours de germination. Mais là, bon, si les colis se retrouvent, qu'est-ce que nous allons faire?
Bah, ça c'est à jeter, tout simplement. Oui. Ça va pas nous produire.
Oui. De l'entretemps, ce sont quand même des milliers d'argent que nous avons investi. Et ça, c'est quelque chose que nous déplorons auprès de quoi des autorités, surtout de l'aviation civile, des autorités des compagnies, je ne veux pas quand même citer, parce que et toutes sont presque pareilles, mais qui prennent quand même conscience que lorsqu'il y a des gens qui s'investissent dans telle ou autre histoire, ils doivent quand même prendre au sérieux de leur engagement. Alors, sous peine de passer à une mauvaise publicité, ça ne serait pas une bonne chose.
On retourne au standard. Hein. Il y a un auditeur qui nous appelle de l'ICACI. Il s'appelle Joseph. Joseph, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Monsieur Joseph.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour à l'invité.
Réduisez les volumes de la radio. Écoutez-nous au téléphone. Hein.
Ok.
On vous donne la parole.
Bonjour, Radio Okapi.
Bonjour.
Ok. Ma parole est celle-ci. Nous écoutons beaucoup de projets qui sont très magnifiques et qui peuvent nous rendre, nous, périphériens, des sorties en politique pour aller faire notre vie. Seule et simple. Maintenant, la difficulté est celle-ci. Il n'y a pas d'ingénieurs agronomes qui peuvent nous rassembler, nous, les paysans, pour aller nous enseigner quelle culture que nous allons prendre ici, chez le continent de notre terre. Peut-être il faut préciser ceci, peut-être il faut préciser cela. La culture pérenne, c'est un bon projet. J'espère qu'on va être beaucoup de millionnaires. Mais fort malheureusement, il faut que l'on soit entendu par la radio. Mais l'effectivité est incroyable. Par exemple, ici, les cafés ou caféinons, d'où on va trouver les semences. Les cacao, d'où c'est le marché, c'est le magasin. Nous exposons des terres arables qui fait plus de 10 hectares. Bon, plus de 20 à 40. Maintenant, l'endroit qu'on peut trouver le semam, si j'ai cultivé ces choses-là, l'endroit où je peux l'exposer pour me faire revenir, si je mets le palmier, l'huile, oh, ah, je peux trouver, d'où je peux trouver ma méchante, il faut avoir bien des causes. Je peux me perdre quelques maigres moyens que je mets dans la maison. Mais on n'a pas voir la place de GPCG que Matianis, c'est lui qui a gagné pour nous. Maintenant, il faut faire à l'ingénieur, je trouve à l'ingénieur. Il faut regrouper d'abord l'ingénieur expert, agronome, pour aller nous enseigner, nous faire comme une groupe, nous faire comme ça en ligne. Il y a des coopératives. Non, il n'y a plus de faire des coopératives aussi agricoles. Maintenant, à nos jeunes, nous avons vu nos parents qui disent qu'on appelle le fond de 4 ans, qu'on appelle le Kotanga. Ils ne sont pas gratifs de nos parents pour cheminer leur coton à l'endroit où on achète le coton. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup, M. Joseph. Nous rappelons que c'est depuis la ville de l'ICACI que vous avez pris la parole. M. Bernard Kilungu, comment répondez-vous à la préoccupation de l'auditeur de l'ICACI, M. Joseph?
La préoccupation elle est bonne, et c'est vrai, puisque la première des choses, avec les semences des cultures pérennes, notamment la culture cacaoyère, c'est qu'il faudra avoir de précision au niveau de, premièrement, du fournisseur de semences. Et nous travaillons, comme l'a dit M. Blaise, avec un fournisseur certifié. C'est comme lorsque nous parlons de certification de crédit carbone, c'est que dans le monde, il y a des institutions qui sont censées certifier que vous avez autant de crédit carbone, vous émettez autant, vous absorbez autant de COD. Donc voilà un peu, c'est dans ce sens-là où nous travaillons. Pour toutes les personnes qui veulent entrer en contact avec ou qui veulent avoir la semence ou se faire accompagner, ils n'ont qu'à nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux ou ici c'est à Kolwezi l'ICACI ou bien Lubumbashi l'ICACI, c'est à 1h20 ou 1h30. Les ingénieurs sont disposés, nos ingénieurs sont disposés à aller, puisque nous y allons, déjà dans tout le quatre coins du pays. Donc à ce niveau-là, il veut se faire accompagner, il n'a qu'à contacter, à écrire dans son téléphone birdorlife.org. Il aura nos différentes adresses, nos coordonnées, ou encore même voir même les adresses de nos bureaux sur la province où nous avons le bureau, les 17 provinces. Voilà.
D'accord, on vous garde en ligne. On retourne au standard parce qu'il y a un auditeur, hein, un auditeur qui nous appelle depuis Kananga. Il s'appelle Martin Constant. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour à tous les auditeurs de la radio au Capi.
Nous vous écoutons.
Je suis Martin, je suis à Tchikapa dans la province du Kassai.
Ah, vous êtes plutôt à Tchikapa.
À Kananga.
Parfait.
Ouais, je suis dans la province du Kassai. Merci beaucoup. Je suis très content du sujet, hein, choisi. Je suis député en développement rural, ressortissant de l'ISR Kibashi, de Kananga. Les avantages, bien sûr, liés à la relance des cultures pérennes sont vraiment les gens, comme je l'ai précisé dans le forum de Papi Service. Effectivement, les cultures pérennes permettent à ce que l'on puisse booster l'économie du pays, mais aussi ça permet également une bonne stabilité environnementale, surtout en ce qui concerne les réchauffements climatiques. Autre précision aussi, c'est que les cultures pérennes ça va beaucoup plus aussi dans l'industrialisation, ça ramène à ouvrir beaucoup de charges en ce qui concerne de l'emploi à la population. Il y aurait beaucoup de services que ça ramène. Et le problème aussi ici, c'est que dans beaucoup de sujets qui viennent, on ne sait pas choisir une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre concernée aux domaines. Le problème, c'est que vous allez voir quelqu'un qui a fait tel ou tel autre domaine, qui s'y explique, et qui commence à faire, et ce qu'il ne connaît pas, et vous trouvez ce projet-là, bavé, il ne marche pas. Moi, je voulais peut-être aussi le gouvernement, surtout, ou les initiateurs, en faisant les projets comme ça, s'ils pouvaient beaucoup plus revenir à choisir une main-d'œuvre qualifiée dans les domaines, cela pourrait plutôt permettre à ce que la réussite de ces initiatives soit perfectible. C'est un constat que je peux également contribuer à ce sujet.
Donc, merci beaucoup.
Je trouve que
La technicité au niveau de personne. Voilà. Oui. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Tchikapa que vous intervenez. Mais dites-nous, est-ce qu'à Tchikapa, il y a des plantations à l'état d'abandon? Est-ce que c'est une zone où l'agriculture est aussi largement pratiquée?
Oui. Et à Tchikapa, en ce qui concerne les travaux du genre liés surtout à l'agriculture, bon, je peux voir que donc ce programme d'ailleurs qui est purement étatique, le programme national de développement agricole. Beaucoup de jeunes se plaignent effectivement d'avoir postulé là-bas pour ne pas être reçus. Ils n'ont pas été embauchés de ce côté-là, ils se plaignent. Et quand on voit sur la liste, les listes définitives des gens que l'on prenne là-bas, c'est surtout les gens, cette main-d'œuvre non qualifiée, qui n'est pas concernée dans les domaines. Parce qu'il s'agit de tel ou tel autre, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui vient de la famille d'une autorité politico-administrative quelconque, voilà. Cette personne-là est prise dans toute facilité, même si elle venait de n'importe quel domaine qui n'est pas beaucoup plus lié à ce que l'on est en train vraiment de rechercher comme aide. Donc, c'est ça au moins la difficulté pour moi. C'est parce que pour y aller aussi d'une bonne façon, il fallait que l'on revienne à cette question-là, trouver aussi une main-d'œuvre bien qualifiée pour mieux répondre à toutes les exigences, surtout professionnelles, dont la République démocratique du Congo fait face.
Merci beaucoup, M. Constant. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Chicapa que vous intervenez. Ingénieur Blaise, M. Constant, il a évoqué le problème de la technicité. Parfois, il y a un problème de la technicité, de l'expertise. Est-ce que Biderlife a des techniciens qui ont l'expertise pour accompagner les fermiers dans ces phases des projets de la relance et des cultures pérennes?
Merci, c'est vraiment une question pertinente. Mais on ne devons pas mélanger les choses. Il parle d'une part des actions que l'État est en train de mener et nous sommes en train de parler de ce que nous sommes en train de faire. Alors, sur ce qu'il a eu à dire sur la sélection des fermiers, je comprends, c'est quand même quelque chose qui est commode ici. Quand il y a un projet, on appelle les gens, on sélectionne déjà ceux qui font partie de telle classe et tout. Et dans la réalisation, c'est autre chose. Et nous, Bédorlève, nous accompagnons nos partenaires du début jusqu'à la fin. Et nos partenaires, ils ont un contrat lié avec Bédorlève. Les ingénieurs qui sont mis sur le terrain, sur les sites, ce sont des ingénieurs de Bédorlève qui ont été formés par Bédorlève. Monsieur Bernard l'a évoqué ici que nous avons des ingénieurs qui sortent de l'université. Mais face à la réalité, ils ne savent pas comment le faire. Alors, et nous prenons quand même la peine de former des ingénieurs qui viennent de l'université. Ils commencent d'abord avec nous, avec un contrat d'essai, des formations en fait. Ils subissent des formations. Nous sommes descendus avec vous sur terrain, vous avez à visiter.
On a visité des pépinières, des cacaoyers dans l'espace Kassaï.
L'espace Kassaï, par exemple. Et lorsque nous venons avec nos propres ingénieurs, et nous-mêmes nous installons, et nous-mêmes nous faisons avec, d'un commun accord avec le partenaire, nous faisons tout ce qui est comme travaux et la réalisation du projet. Et en plus, ce n'est pas que nous donnons aux partenaires les semences et nous partons, non. Nous venons avec l'expertise qu'il faut et chaque mois, le partenaire a un rapport détaillé sur ce qui se passe sur les sites. Et si, comme l'agronomie n'est pas une science exacte, il y a toujours d'obstacles que nous devons surmonter ensemble. Nous disons, voilà, il y a tel obstacle. Et il y a des réalisations. Vous avez suivi le premier partenaire, c'est M. Mouamba Selemani Girard. Le deuxième partenaire, c'est M. Kabama Chrétien. Ce sont des partenaires que nous accompagnons avec notre expertise. Alors, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait quand même une certaine sérieuxité, si je peux ajouter ce que notre auditeur l'a dit, une certaine sérieuxité dans les choix des sélections. Ou quand même vous financez les projets, mais le gouvernement doit s'en rassurer que nous devons mettre des gens de terrain.
Et qu'il y ait aussi un suivi permanent.
Par exemple, comme nous, on met quand même les gens de terrain qui vont faire quand même le suivi pour que les projets ne soient pas bâclés. Ça, c'est un conseil que je peux donner au gouvernement ou à l'État.
Je retourne au standard cette fois-ci pour aller à Boma. Et à Boma, nous allons donner la parole à M. l'abbé Aimé Ntswami. Bonjour M. l'abbé, bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, c'est M. l'abbé Aimé à l'écoute.
Soyez les bienvenus dans ces rendez-vous. Vous êtes un des partenaires de l'ONG Biderlife. Dites-nous en quoi consiste l'appui que vous avez bénéficié dans le cadre de leur programme de la relance de la culture pérenne en RDC.
Voilà, je commencerai par me présenter. Je suis en fait M. l'abbé Aimé, directeur du bureau diocésain de Caritas Boma, du diocèse de Boma, dans le Congo central. Effectivement, nous sommes en partenariat avec Better Life à deux volets. D'abord, Better Life accompagne le diocèse de Boma qui dispose de plusieurs étendues de terres arables pour le culture pérenne. Mais en même temps, en tant que directeur du diocèse de Caritas, la Caritas a vocation de se tourner aussi vers les vulnérables, c'est-à-dire nos paysans qui n'ont pas assez de perspectives pour l'avenir. On leur apporte un soulagement par l'appui, par l'accompagnement, formation et c'est multiforme. Et avec Better Life, nous avons mis un système d'accompagner aussi, non pas seulement les diocèses, mais aussi les paysans, les vulnérables, en mettant en place déjà présentement. Nous sommes à l'étape de pépinière. Nous avons recruté les paysans qui ont de la terre et qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent en faire. Et nous allons les accompagner à toutes les étapes. Nous finissons la pépinière. Après, nous allons sur leur terrain. Nous avons déjà eu à faire des tours, des tournées avec les ingénieurs de BT Live pour prélever les coordonnées géologiques et puis pour constater, faire des études préliminaires si la terre répond par exemple à la culture du cacao. Et nous avons déjà recruté certains paysans qui ont de la terre, qui vont bénéficier de l'appui de Better Life en semences et puis en matériel de facilité, parce qu'on ne voudrait quand même emblaser de grandes superficies, 10, 20 hectares, 50 et pourquoi pas 100, avec un objectif quand même d'atteindre cette année 300 hectares.
Et jusqu'à là, vous avez rassemblé combien de fermiers dans la région de Boma?
Dans la région de Boma, jusque-là, nous sommes à 23 fermiers.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous avez un message de particulier ou un plaidoyer à faire passer dans le cadre de ces projets qui initient Better Life?
Ben oui, bien sûr, parce que nous sommes butés devant le problème parfois de financement. Les paysans qui adhèrent n'ont même pas déjà les moyens pour faire ouvrir les percées. Et donc Caritas doit se débrouiller pour chercher des partenaires d'appui, pour essayer de signer des contrats de mise en place. Voilà comme ça comment on essaie de s'en sortir. Mais si nous avons par exemple du côté du gouvernement des subventions agricoles, pourquoi pas? Parce que normalement, le gouvernement devait subventionner l'agriculture. Et ces perspectives qui peuvent relancer les Mayombes, parce que ça, je ne l'ai pas dit en passant. Les Mayombes, à l'époque coloniale, c'était une région à vocation agricole. On pouvait recenser une cinquantaine de sociétés qui exploitaient la terre, l'huile de palme, les cacao, la banane, les cultures vivrières. Et voilà pourquoi même le port de Boma a été appelé à l'époque port du Mayombe, parce que par là qu'on exportait. Et donc, il faut remettre cette vocation à cette région du Mayombe où il y a une terre arable avec un climat favorable, une bonne pluviométrie et des terres qui ne demandent pas d'abord de fertilisants, et ça pourrait booster l'économie de toute la région, parce que même le port de Boma qui est en souffrance pourrait être relancé avec ce projet.
Merci
donc,
beaucoup.
Nous faisons un plaidoyer auprès.
Oui, merci beaucoup, Monsieur l'abbé.
Nous faisons un plaidoyer auprès du gouvernement.
Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, d'avoir participé à cette émission et merci pour votre plaidoyer. J'espère que il va arriver auprès de personnes concernées. Et je pense que c'est par ici qu'on va aussi chuter avec vous. Pour les auditeurs qui sont intéressés pour entrer en contact avec les services de Better Life, ils n'ont qu'à appeler au numéro 082-366-3370. Je rappelle le numéro 082-366-3370. Le site internet, c'est le www.biderlife-ong.org. Et puis, le courriel, c'est le info@biderlife-ong.org. Et c'est par ici, que s'achève. J'ai dit merci à vous. Merci également, ingénieur Bernard, qui a appelé, qui a intervenu depuis, la ville de Lubumbashi. Excellente journée avec vous. Et c'est par ici que se clôture le magazine Okapi Service, que j'ai eu l'immense plaisir de vous le présenter. Jean-Marc Matois, qui était à la supervision, et Debs Vita s'est occupé de la prise de son. Grâce Loutoula était à la réalisation. Excellente journée, au revoir.